Hans Jonas, Le principe responsabilité, une éthique pour la civilisation technologique, 1979. Ce texte est un texte de la fin du XXe siècle, et comme l'indique le titre de l'œuvre dont est extrait cette petite portion de texte, l'objectif du philosophe allemand Hans Jonas, c'est de réfléchir à la façon dont l'évolution de notre société, et notamment le progrès technique, nous invite à adopter de nouvelles règles, de nouveaux principes de comportement adaptés aux nouveaux enjeux de ce que Jonas appelle ici la civilisation technologique. Entre le siècle de Descartes, notre premier texte du XVIIe siècle, et le siècle de Jonas, le XXe siècle, il s'est en effet produit la révolution que Descartes appelait de ses voeux, une révolution technologique qui a vu les progrès de la technique dans un nombre de domaines et de champs extrêmement importants, comme la massification des productions industrielles, mais aussi les progrès énormes de la médecine qui ont été réalisés en relativement peu de temps. Les conséquences de ce progrès sont de différents ordres. Premièrement, les progrès techniques ont abouti à une augmentation massive de la démographie humaine, puisque rien qu'en prenant les chiffres du XXe siècle, on estime à 1 milliard d'êtres humains la population mondiale au début du XXe siècle, et aujourd'hui, nous n'avons même pas encore passé le quart du XXIe siècle et nous en sommes déjà à 8 milliards d'êtres humains. Or, cette augmentation de la population va évidemment de pair avec une augmentation de la production d'objets techniques, d'objets manufacturés, d'autant que dans de nombreux domaines, non seulement nous sommes plus nombreux à consommer, mais même individuellement, nous consommons plus. Prenons l'exemple du textile. Le prix du textile a très fortement diminué depuis environ 40 ans, et donc vos générations ont dans leur placard beaucoup plus de vêtements que ne pouvaient en avoir les générations de vos parents. Et toute cette production qui a augmenté de manière exponentielle, eh bien, elle va de pair avec des effets sur l'environnement comme la pollution, comme la raréfaction de certaines ressources, etc., etc. Ainsi, nous pouvons nous demander, premièrement, si le progrès technique est réellement un progrès. Il y a en effet à l'évidence une progression, et même une progression massive, et un développement massif des techniques. Mais est-ce qu'il s'agit là d'un progrès au sens d'une amélioration de la condition de la vie humaine? Ça, c'est l'un des premiers enjeux que nous pose le développement de la civilisation technologique. Et deuxièmement, si nous répondons non à cette question, si on estime que justement la progression de cette civilisation technologique ne va pas de pair avec un progrès, comment changer nos comportements afin de réellement bénéficier de cette progression de la technologie ? Autrement dit, comment faire en sorte que la progression des technologies soit bénéfique pour l'humanité et ne lui soit pas néfaste? La réponse de Jonas à cette question, c'est que, premièrement, le développement technologique est actuellement néfaste parce qu'il n'est pas maîtrisé et que, par conséquent, nous avons la responsabilité, dans la mesure où nous savons quels sont les effets néfastes de ce développement technologique. Donc nous avons la responsabilité de l'encadrer, de le maîtriser. Nous avons la responsabilité de mettre des règles à notre utilisation, à notre usage de la technique. Il en va, en effet, pour Jonas, de l'avenir de l'humanité. Et nous avons une responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, de ceux qui nous entourent, mais aussi de l'humanité future, de celle de nos enfants, petits-enfants, etc., etc. Alors, est-ce que Jonas va nous donner des règles précises dans ce texte? Pas vraiment. Son but, c'est de nous donner un grand principe général qui nous permettra de pouvoir ensuite adapter notre comportement et nous mettre un certain nombre de limites, de cadres, en fonction des différentes situations que nous allons rencontrer. Ceci nous oblige à d'abord définir ce que c'est qu'un principe. Principe, ça a la même racine que prince. C'est ce qui vient en premier, c'est ce qui dirige, c'est ce qui commande. Donc, en philosophie morale, un principe, c'est une grande idée générale, c'est un grand commandement général. Prenons un exemple d'un principe moral extrêmement connu, c'est ce qu'on appelle la règle d'or. Parce qu'on la retrouve dans beaucoup de religions, dans beaucoup de cultures. C'est vraiment un espèce de très grand principe comme ça, donc qui consiste à dire, alors la formulation la plus fréquente, c'est ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ou alors traite autrui comme tu souhaiterais être traité. Vous voyez, c'est vraiment un grand principe général. Il s'agit pas d'une situation précise et c'est valable, par contre, dans toutes les situations. Ça va aboutir à des règles précises. Je sais pas, par exemple, si je n'aime pas qu'on se moque de moi, eh bien, je ne vais pas me moquer des autres, selon ce principe que je dois pas faire à autrui ce que je veux pas qu'on me fasse. Si je n'aime pas qu'on me prenne mes affaires sans autorisation, eh bien, je vais faire la même chose et je ne vais pas prendre les affaires des autres sans autorisation. C'est un principe de réciprocité, en fait, dans les actions envers les autres. Et ce grand principe, eh bien, c'est un commandement, c'est un impératif. Ça me dit comment agir, comment il faut que j'agisse. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre le début du texte de Jonas, qui parle du nouvel impératif que les êtres humains doivent se donner. Donc il va falloir renouveler en fait l'éthique et la morale, nous redonner un nouveau principe, parce que, alors le texte dit que ce principe il doit être adapté au nouveau type de l'agir humain. Alors ça veut dire quoi? En fait, c'est très simple, c'est que nous n'agissons plus de la même manière puisque aujourd'hui, la plupart de nos actions, elles passent par la technologie. Et par conséquent, eh bien, nos actions, elles n'ont pas les mêmes conséquences parce que quand on passe par la technologie, ça va parfois amplifier certains effets néfastes sur l'environnement, etc. ou amplifier aussi les effets néfastes sur les autres. Je reprends l'exemple de la moquerie tout à l'heure. Ben c'est avec les réseaux sociaux, tout ce qui est moquerie, harcèlement a pu prendre des proportions bien plus grandes parce que, eh bien, on a beaucoup plus d'occasions de pouvoir se moquer de quelqu'un. C'est amplifié par le côté public, par le nombre de personnes qui fréquentent ces réseaux. Donc finalement, il est possible qu'aujourd'hui, il n'y ait pas beaucoup plus de harcèlement, de méchanceté, de moquerie qu'il y en avait il y a 10 ou 20 ans. Mais on a le sentiment qu'il y en a plus, que c'est plus massif, parce que tout simplement, il y a des nouvelles technologies qui augmentent la fréquence et l'influence et l'importance de ces moqueries et de ces agissements méchants vis-à-vis des autres. Donc cette situation, ben, ça oblige à agir différemment et peut-être à encadrer beaucoup plus, à prendre beaucoup plus conscience que le harcèlement est un problème et qu'il faut réglementer ces réseaux beaucoup plus qu'auparavant. Résumons donc l'idée de cette première ligne. Nous n'agissons plus de la même manière qu'il y a un siècle parce que les technologies se sont fortement développées et ont une influence néfaste et un potentiel de nuisance bien plus grand sur l'humanité et la nature. Par conséquent, nous devons modifier nos principes moraux de base ou en tout cas y ajouter quelque chose pour incorporer ces conséquences que le développement de la technologie a sur la nature et sur l'humanité. Donc, dans la suite de ce premier paragraphe, Jonas va formuler de deux manières différentes ce nouveau grand principe adapté à notre nouvelle civilisation technologique. Vous remarquerez évidemment que ces deux formulations intègrent des verbes à l'impératif, puisqu'il s'agit de nous dire comment nous devons agir. Je cite la première formulation. Agis de telle façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cette formulation. Premièrement, vous voyez le verbe à l'impératif agit. Donc, il s'agit vraiment de dire quelque chose sur toutes nos actions, sur tous nos agissements. Ensuite, donc, nous sommes invités à systématiquement réfléchir aux conséquences de nos actions, puisqu'il faut que les effets, donc les conséquences de cette action, soient compatibles avec la permanence d'une vie humaine, authentiquement humaine sur Terre. Autrement dit, à chaque fois que nous agissons, nous devons réfléchir. Nous devons essayer de nous projeter dans le futur afin d'essayer d'anticiper au maximum les conséquences. Au quotidien, il arrive très très fréquemment que même si nous avons très envie de faire certaines choses, eh bien nous nous retenons de le faire parce que ben on prend en compte les conséquences que cette action pourrait avoir et finalement, c'est moins intéressant pour nous à long terme qu'à court terme de réaliser cette action. Petit exemple basique, si j'ai du travail à faire, je peux avoir très très envie de me mettre à jouer à un jeu vidéo ou très envie de faire autre chose tout simplement et je peux me raisonner en me disant que je vais perdre du temps et je vais me retrouver plus tard sous pression à devoir faire mon travail en un temps très limité. Cela étant dit, la projection que Jonas nous demande ici de faire dans le futur, elle est quand même bien plus étendue. Et elle s'étend même au-delà de notre propre existence. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de considérer les conséquences ben, pour moi, hein, mais de toute façon, le principe de la morale, c'est que je prends en compte les autres et pas moi-même. Donc, c'est pas simplement pour moi, mais c'est pas simplement non plus pour les autres qui sont autour de moi aujourd'hui. Je dois évaluer les conséquences aussi pour les autres futurs. Je dois intégrer les générations futures dans le calcul moral de mes actions. Je vais prendre un exemple d'actualité. À moins d'être climato-dénialiste, nous savons tous que la planète se réchauffe, que cela va avoir des conséquences importantes sur les conditions de vie des êtres humains dans les décennies à venir. D'ailleurs, en fait, nous sommes bien placés pour constater certaines conséquences, puisque nous sommes en train de vivre actuellement dans les Pyrénées-Orientales une sécheresse qui n'est a priori que les prémices de l'aridification de la région, donc et de sa désertification, ce qui aura peut-être pour conséquence dans les années à venir, ben, pour les futures générations de jeunes des Pyrénées-Orientales, de quitter cette région, ou en tout cas de devoir s'adapter à des conditions climatiques très compliquées. Et même les projections sur la possible montée des eaux liées au réchauffement climatique, ben, nous invite à penser que notre propre lycée, dans quelques décennies, n'existera plus parce que tout simplement il sera sous l'eau. Or, on sait aussi que ce réchauffement climatique, il est très fortement lié à nos actions de consommation, la façon dont nous choisissons nos modes de transport, etc., etc. Sachant cela, certaines personnes vont suivre l'impératif, de Jonas, ce fameux principe responsabilité, et donc ils vont choisir de se déplacer beaucoup moins en voiture, voire de ne pas avoir de voiture du tout. Ils vont se déplacer systématiquement en transport en commun ou utiliser le vélo pour les courtes distances. L'idée, c'est que si tout le monde faisait ce même type d'effort, on aurait des conséquences positives sur le réchauffement climatique. Et on permettrait aux futures générations de vivre dans des conditions bien plus acceptables. C'est-à-dire, et là je reprends une citation du texte, de vivre une vie authentiquement humaine. C'est-à-dire pas simplement survivre, mais avoir une bonne vie dans un environnement sain et en étant, par exemple, en bonne santé. Regardons à présent la deuxième formulation de ce principe. Je cite: ne compromet pas les conditions pour la survie indéfinie de l'humanité sur Terre. On remarquera ici que la formulation est un peu plus, même beaucoup plus dramatique. Car de manière très explicite, Jonas nous indique que la manière dont nous nous comportons aujourd'hui remet en cause la survie même de l'humanité. C'est-à-dire que nous ne mettons pas simplement en péril la vie agréable, la bonne vie des générations futures, mais la vie tout court, la survie tout court de ces générations futures, et donc la survie de toute l'humanité. Et si vous regardez le deuxième paragraphe, je cite, « Le nouvel impératif affirme précisément que nous avons bien le droit de risquer notre propre vie, mais non celle de l'humanité. » Vous voyez à quel point Jonas va loin dans cette volonté de faire prendre conscience à ses lecteurs, à ses concitoyens des années 1980, de l'énorme, de l'incroyable responsabilité qui est la leur. Jamais, certainement, dans l'histoire de l'humanité, une génération a eu à se préoccuper de savoir si ces actions allaient mettre en péril l'ensemble de l'espèce humaine. Et là, on voit bien que l'éthique, c'est aller au-delà de son intérêt personnel. Je peux me mettre en danger, moi, en pratiquant un sport dangereux, par exemple. Au final, ça n'aura pas forcément de conséquences sur l'humanité. Par contre, certaines de mes actions qui ne me mettent absolument pas en danger, moi, mettent en danger l'humanité tout entière. Or, l'éthique ou la morale, c'est finalement se préoccuper des autres et pas de soi, ou en tout cas intégrer l'intérêt des autres dans le calcul que je fais à propos de mes propres actions. Donc, d'un point de vue éthique, pour Jonas, il y aurait plus de règles à s'imposer concernant notre usage des voitures, des transports, notre consommation au quotidien, que de règles à s'imposer sur le fait de faire du parapente ou de se mettre soi-même en danger, car cela n'implique que nous.